9. Mia avait laissé les lampes allumées, pourtant une étrange obscurité s'était insinuée dans la chambre 1919 depuis son départ. Jack ne se leurra pas sur sa nature. C'étaient les ténèbres Vahadash. Le bourdonnement ignoble et le carillon étouffé provenaient du placard.
« Elle s'est réveillée, »
se dit-il avec un désespoir croissant.
« Avant, elle dormait, elle somnolait du moins, mais tout ce mouvement autour d'elle l'a réveillée. Que dois-je faire? La boîte et le sac de bowling sont-ils une protection suffisante? Est-ce que j'ai quoi que ce soit d'autre par précaution? Un charme? Un sigle ?»
Tandis que Jake allait ouvrir la porte du placard, Callahan se surprit à concentrer tous ses efforts de volonté, et ils étaient considérables, sur le simple fait de ne pas s'enfuir en courant. Ce bourdonnement atonal et le carillon lui heurtaient les oreilles, le cœur et l'esprit. Il se remémorait sans cesse la scène au relais, comme s'il s'était mis à hurler quand l'homme à capuche avait ouvert la boîte. Cette chose à l'intérieur était tellement visqueuse. Elle reposait sur du velours rouge, et elle avait roulé. Elle l'avait regardé, et toute la folie maléfique contenue dans l'univers était résumée dans ce regard désincarné et concupiscent. « Je ne m'enfuirai pas, je ne m'enfuirai pas. Si ce gosse peut rester, je le peux aussi. » Ah, mais ce gosse était un pistolero, ce qui faisait une grosse différence. Il n'était pas seulement l'enfant du cas, il était aussi l'enfant de Roland de Gilead, son fils adoptif. Ne vois-tu pas combien il est pâle? Il a tout aussi peur que toi, pour l'amour de Dieu. Maintenant, reprends-toi, mon vieux. C'était peut-être pervers, mais voir de ses yeux la pâleur extrême de Jake l'apaisa un peu. Il se sentit plus apaisé encore quand il lui revint des bribes d'une vieille comptine qu'il se mit à chantonner à voix basse. Autour du mûrier, le singe pour chasser la belette. Le singe trouvait ça très drôle. Jake ouvrit le placard. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort. Il essaya la combinaison 1919, mais rien ne se produisit. Il laissa au mécanisme du coffre le temps de se remettre à zéro, essuya la sueur sur son front à l'aide de ses deux mains. Elle tremblait. Et fit une nouvelle tentative. Cette fois-ci, il tapa 1999, et la porte du coffre s'ouvrit, comme poussée par un ressort. Le bourdonnement de la 13e noire et le tintement en contrepoint du carillon du Vahadash augmentèrent de concert. Ces sons leur firent l'effet de doigts glacés en serrant leur tête comme un étau. « Et elle peut nous emmener ailleurs, » pensa Callahan. « Tout ce qu'on a à faire, c'est baisser la garde, rien qu'un petit peu. Ouvrir le sac, ouvrir la boîte, et ensuite, oh, tous ces endroits qu'elle pourrait nous montrer. Et hop, là, la belette !» Il avait beau savoir que tout ça était vrai. Une partie de lui voulait ouvrir ce coffret. Convoitait le contenu de ce coffret. Et il n'était pas le seul dans ce cas. Sous ses yeux, Jake s'agenouilla devant le coffre-fort, comme un fidèle devant l'autel. Callahan tendit le bras pour l'empêcher de sortir le sac, et ce bras lui parut incroyablement lourd.
« Ça ne change rien, ce que tu fais, »
murmura une voix dans sa tête. Une voix qui donnait envie de dormir. Une voix incroyablement convaincante. Néanmoins, Callahan tendit le bras. Il attrapa Jack par le col et toute sensation semblait avoir disparu du bout de ses doigts. « Non, » dit-il, « ne fais pas ça !» Sa voix avait des accents de lassitude et de découragement. Lorsqu'il tira Jack sur le côté, le garçon parut basculer au ralenti, comme sous l'eau. La chambre semblait maintenant éclairée par cette lumière jaune malsaine qui baigne parfois les paysages, juste avant un orage dévastateur. En tombant à genoux devant le coffre-fort, il lui sembla que sa chute vers le sol durait une minute entière. Callahan entendit la voix de la 13e noire, plus forte que jamais. Elle lui disait de tuer le garçon, de lui trancher la gorge et d'offrir au cristal une bonne lampée réparatrice de son sang encore tout chaud de vie. Et alors, Callahan pourrait même aller lécher les éclaboussures sur la fenêtre de la chambre.
« Tu chanteras mes louanges jusque dans la 46e rue. »
lui susurrait la 13e noire d'une voix à la fois saine et lucide.
« Faites-le, »
soupira Jake.
« Ah oui, faites-le, qu'est-ce qu'on en a à faire ?»«
Hack !» aboya ôté de l'autre côté de la porte. « Hack !» Tous deux l'ignorèrent. En tendant la main vers le sac, Callahan se remémora soudain sa dernière entrevue avec Barlow, le roi vampire. Le type 1, pour reprendre le jargon du père, qui était venu dans la petite ville de Salem Slot. Il se remémora son dernier affrontement avec Barlow, dans la maison de Mark Petrie, avec les cadavres des parents du petit étalés sur le sol, aux pieds du vampire, leur crâne enfoncé et leur petit cerveau tellement rationnel réduit en bouillie.
« Pendant ta chute, je te laisserai murmurer le nom de mon roi, »
chuchota la 13e noire.
« Le roi cramoisi ?»
Callahan regarda ses mains se saisir du sac. Dieu sait ce qu'il avait contenu auparavant avec son inscription « Rien que des strikes à l'antre de quille ». Il repensa à son crucifix qui avait commencé par rayonner d'une lumière d'un autre monde, faisant reculer Barlow, avant de virer au noir.
« Ouvrez-le !»
ordonna Jake d'une voix impatiente. «
Ouvrez-le, je veux la voir !»
À présent, Othé aboyait sans discontinuer. Dans le couloir, quelqu'un s'écria « Mais faites-moi taire ce chien !» En vain. Callahan glissa le coffret en bois fantôme hors du sac. Ce même coffret qui avait passé quelque temps caché sous la chaire de son église de Calabrinsturgis dans un sommeil béni. Maintenant, il brûlait de l'ouvrir. Maintenant, il brûlait d'observer la 13e noire dans toute sa splendeur répugnante. Et puis il mourait, plein de reconnaissance. 10. C'est triste de voir la foi d'un homme échouer, avait dit Kurt Barlow, le vampire, avant d'arracher le crucifix calciné et inutile des mains de Callahan. Comment avait-il été en mesure de faire une chose pareille? Parce que, regardez un peu le paradoxe, voyez l'ironie de la situation. Le père Callahan avait échoué en ne jetant pas la croix lui-même. Parce qu'il avait failli, il n'avait pas vu la croix pour ce qu'elle était, rien que le symbole d'un pouvoir bien plus puissant qui courait comme un fleuve sous l'univers, peut-être même sous un millier d'univers. « Je n'ai pas besoin de symbole. » pensa Callahan. Puis, est-ce pour cette raison que Dieu m'a laissé en vie? Me donnait-il une seconde chance d'apprendre ça? Possible, se dit-il en posant les mains sur le couvercle du coffret. Les secondes chances, c'était une spécialité de Dieu.
Dites donc, faut vraiment que vous fassiez taire ce chien,
fit la voix grincheuse d'une femme de chambre, mais très loin.
Madre de Dios! « Pourquoi il fait si noir là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ce b... que ce b... »
Peut-être essayait-elle de dire « bruit ». Quoi qu'il en soit, elle n'eut pas le loisir de terminer. Même Othé semblait s'être résigné à être envoûté par le cristal qui chantait et bourdonnait, car il abandonna ses protestations et son poste de vigie à la porte et entra dans la chambre en trottinant. Callahan supposa que l'animal voulait se trouver aux côtés de Jake quand viendrait la fin. Le père lutta pour suspendre le mouvement de ses mains suicidaires. La chose dans la boîte augmenta le volume de son chant d'idiot et en réponse, ses doigts se mirent à tressauter. Puis, ils s'immobilisèrent de nouveau. « C'est toujours ça, une petite victoire pour moi, » se dit Callahan.
« Pas grave, je vais le faire moi-même !»
fit la voix de la femme de chambre, comme droguée, malade d'impatience.
« Je veux la voir, Dios, je veux la tenir !»
Jake avait l'impression que ses bras pesaient une tonne, mais il les força à attraper la femme de chambre, une hispanique d'âge mûr qui ne devait pas peser plus de 50 kilos. Tandis qu'il luttait pour arrêter ses mains, Callahan luttait aussi pour prier.
« Dieu, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Je ne suis pas le potier, mais l'argile du potier. » Si je ne dois rien faire d'autre, que je sois capable de la prendre dans mes bras et de sauter par la fenêtre, que je détruise cette horreur maudite des lieux une fois pour toutes. Mais si ta volonté est de l'apaiser, de la rendre au sommeil, alors envoie-moi ta force et aide-moi à me rappeler. »
Jake était peut-être drogué par la 13e noire, mais une chose était certaine. Il n'avait pas perdu son don de Shining. Il alla chercher la fin de la supplique dans l'esprit du père et l'énonça à voix haute, remplaçant seulement le mot choisi par Callahan par celui que Roland leur avait appris.
« Je n'ai pas besoin du sigle, » dit le garçon. « Non pas le potier, mais l'argile du potier, et je n'ai besoin d'aucun sigle. »«
Mon Dieu, » dit Callahan.
Le mot était aussi lourd qu'une pierre, mais une fois qu'il l'eut prononcé, le reste lui vint beaucoup plus facilement.
« Mon Dieu, si vous êtes toujours là, si vous m'entendez, c'est Callahan. Je vous en prie, arrêtez cette chose, Seigneur. Je vous en conjure, rendormez-la, j'en fais la demande au nom de Jésus. »«
Au nom du blanc, » dit Jake.
« Hein !»
jappa ôté.
« Amen !»
conclut la femme de chambre d'une voix d'ivrogne perplexe. Pendant quelques secondes, l'odieux chant provenant du coffret gagna encore en intensité, et Callahan comprit que c'était sans espoir, que même Dieu Tout-Puissant ne faisait pas le poids en face de la 13e noire. Puis le chant se tut.
« Dieu soit loué, »
murmura-t-il. Et il se rendit compte que tout son corps était trempé de sueur. Jake fondit en larmes et priotait dans ses bras. La femme de chambre se mit à sangloter elle aussi, mais elle n'avait personne pour la réconforter. Tandis que le père Callahan enveloppait le coffret de bois fantôme dans le nylon, étrangement lourd pour du tissu, du sac de bowling, Jake se tourna vers la femme et lui dit
« Vous avez besoin d'un petit somme, Sai ?»
C'est tout ce qui lui vint à l'esprit, et ça fonctionna. La femme de chambre se tourna et se dirigea vers le lit. Elle s'effondra dessus, tira sa jupe sur ses jambes et parut s'évanouir.
« Est-ce qu'elle va rester endormie ?»
demanda Jake à Callahan à mi-voix.
« Parce que, mon père, on est passé trop près. »
« Peut-être bien. » Mais Callahan se sentit soudain l'esprit libre. Plus libre qu'il ne l'avait été depuis des années. Ou peut-être était-ce son cœur qui s'était libéré. Quoi qu'il en soit, il avait les idées très claires en reposant le sac en nylon sur le dessus du coffre-fort. Il se rappela une certaine conversation dans la ruelle derrière le foyer, entre lui, Frankie Chase et McGruder, pendant la pause cigarette. La discussion avait tourné autour de la façon de protéger ses biens à New York, surtout si on devait s'absenter pendant un temps, et McGruder avait prétendu que le meilleur coffre-fort de New York, le coffre-fort le plus sûr... « Jake, il y a aussi un sac de plats dans le coffre. »«
Des orisas ?»«
Oui, prends-les. » Pendant ce temps, Callahan s'approcha de la femme de chambre allongée sur le lit et fouilla dans la poche gauche de sa jupe d'uniforme. Il en sortit toute une série de clés magnétiques en plastique, quelques clés classiques et des bonbons à la menthe dont il n'avait jamais entendu parler. Altoïd. Il la fit basculer sur le côté. Il eut l'impression de manipuler un cadavre.
« Qu'est-ce que vous faites ?»
chuchota Jake. Il avait reposé ôté à terre afin de pouvoir se passer la sangle de la poche en jonc autour du cou. Elle était lourde, mais il trouva ce poids rassurant.
« D'après toi, je lui fais les poches !» répondit le père d'un air furieux. « Le père Callahan, de l'église romaine catholique, est en train de faire les poches d'une femme de chambre.
Enfin, il aimerait bien, si seulement elle avait...
Ah !
Dans l'autre poche, il dénicha le petit rouleau de billets qu'il espérait trouver. Elle était en train de faire les lits quand les aboiements d'Othée l'avaient interrompu. Faire la chambre incluait tirer la chasse d'eau, ouvrir les rideaux, changer les draps et laisser une friandise sur l'oreiller. Parfois, les clients laissaient un pourboire. Celle-ci trimballait 2 billets de $10, 3 de 5 et 4 d'1.
« Je vous rembourserai si nos chemins se croisent de nouveau, » dit Callahan à la femme inconsciente. « Sinon, considérez ça comme votre denier du culte. »
« Blanc !»
dit la femme de chambre, avec le débit lent et indistinct de ceux qui parlent dans leur sommeil. Callahan et Jake échangèrent un regard. 11. Dans l'ascenseur qui les ramenait au rez-de-chaussée, Callahan portait le sac contenant la 13e noire, et Jake celui d'Erisa. Il avait aussi leur argent, qui s'élevait maintenant à un total de $48.
Est-ce que ça suffira? Ce fut sa seule question.
Après que le père lui eut exposé son plan pour se débarrasser du cristal, un plan qui nécessiterait qu'il fasse un autre arrêt.
« Je ne sais pas, et je m'en fiche, » répondit Callahan.
Il parlait à voix basse, tel des conspirateurs, bien qu'il fût seul dans l'ascenseur.
« Si je peux faire les poches d'une femme de chambre pendant son sommeil, entourlouper un chauffeur de taxi devrait être du gâteau. »«
Ouais, »
acquiesça Jake. Il se disait que Roland avait fait plus que voler quelques innocents au cours de sa quête de la Tour Sombre. Il en avait tué pas mal aussi.
Débarrassons-nous de cette histoire pour pouvoir trouver le cochon du Sud.
Pas la peine de t'inquiéter à ce point, tu sais, dit Callahan. Si la tour s'écroule, tu seras un des premiers au courant.
Jake l'examina avec attention. Au bout de quelques secondes, un large sourire apparut sur les lèvres de Callahan. Impossible de s'en empêcher.
« Je ne vois pas ce que ça a de drôle, Sai, »
dit Jake, avant de s'engouffrer dans la nuit de ce début d'été de l'année 1999. 12. Il était 9h15 et il restait quelques rayons de lumière sur l'Hudson quand ils parvinrent au premier de leurs 2 arrêts prévus. Le compteur du taxi affichait $9.50. Callahan donna au chauffeur l'un des billets de 10 de la femme de chambre.
« Mon pote, je vais pas être parti au pays avec ça. »
fit l'homme avec son puissant accent jamaïcain. « Faudrait pas que tu te fasses du mal. »«
Fiston, réjouis-toi d'avoir quoi que ce soit. On visite New York avec un budget serré, » répliqua Callahan.
« Ma femme aussi, elle a un budget serré, » fit le chauffeur avant de s'éloigner. Jake était déjà le nez en l'air.
« Waouh !»
dit-il à mi-voix.
« J'avais oublié combien c'était grand tout ça. »
Callahan suivit son regard puis reprit « Finissons-en !» Et tandis qu'il s'empressait d'entrer, il demanda
« Tu reçois quelque chose de Susanna ?»
L'homme à la guitare, en train de chanter. Je ne sais pas quoi, mais je devrais, c'est encore une de ces coïncidences, comme le nom du propriétaire de la librairie, qui s'appelle Tower, ou le bouge de Balazar, qui, comme par hasard, s'appelle la Tour Penchée. Une chanson, je devrais le savoir.
Rien d'autre ?
Jake secoua la tête.
C'est la dernière chose que j'ai reçue d'elle, et c'était juste quand on est monté dans le taxi, devant l'hôtel. Je pense qu'elle est entrée dans le cochon du Sud et qu'elle est hors de portée, avec sa portée. »
Son jeu de mots le fit sourire faiblement. Callahan se retourna vers le tableau des noms au centre du hall gigantesque.
« Garde Othée près de toi. »
« Ne vous inquiétez pas. »
Il ne fallut pas longtemps à Callahan pour trouver ce qu'il cherchait. 13. Le panneau disait « Stockage longue durée, 10-36 mois, utiliser jeton, prendre clé. La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. » En dessous, dans un cadre, ils aperçurent un règlement qu'ils lurent avec attention. Sous leurs pieds passa un métro qui fit trembler le sol. Callahan, qui n'avait plus mis les pieds à New York depuis presque 20 ans, n'avait aucune idée de quel train il s'agissait, de quelle était sa trajectoire ou de la profondeur à laquelle il perforait les entrailles de la ville. Ils étaient déjà descendus de 2 étages par l'escalator, d'abord jusqu'au niveau des boutiques, puis jusqu'ici. La station de métro était bien plus profonde. Jake changea son sac d'Oriza d'épaule et montra du doigt la dernière ligne du règlement.
« Si on était locataire, on aurait droit à une réduction, » fit-il remarquer.
« Duction !» s'écria Otey d'un air morne.
« Si fait, mon petit gars, » approuva Callahan. « Et si les rêves étaient des chevaux, même les mendiants n'iraient plus à pied. On n'a pas besoin d'une réduction. »
« Certainement pas. »
Après avoir passé le détecteur de métaux, les Oriza ne firent pas un pli, et un flic intérimaire somnolent sur un tabouret, Jake décida qu'un casier des plus petits, se aligné sur le mur du fond de la grande pièce sur la gauche, conviendrait très bien au sac de l'antre de quille contenant le coffret. Louer ce casier pour une durée maximale leur coûterait 27 $. Le père Callahan introduisit les billets avec précaution dans le distributeur de jetons, s'attendant déjà à une panne. De toutes les merveilles et de toutes les horreurs qu'il avait vues pendant leur bref retour dans la grande ville, les dernières incluant notamment une taxe de prise en charge de 2 $ dans les taxis, celle-ci était sans doute la plus difficile à se figurer, pour lui. Un distributeur qui acceptait les billets. Il avait fallu un paquet de technologies sophistiquées pour en arriver là, jusqu'à cette façade marron terne et ce voyant lumineux qui ordonnait aux clients d'insérer billets dans ce sens uniquement. L'image accompagnant cette directive montrait un billet à l'effigie de George Washington avec la tête tournée vers la gauche. Mais les billets que Callahan glissa dans la machine semblaient marcher parfaitement dans n'importe quel sens. Du moment que la tête apparaissait sur le dessus du billet, Callahan se sentit presque soulagé quand la machine eut bel et bien raté et refusa un vieux billet d'1 $ tout froissé. Les billets de 5, raisonnablement froissés, eux aussi, étaient avalés sans le moindre scrupule et échangés contre une petite pluie de jetons dans le panier en dessous. Callahan ramassa ses 27 $ de morceaux de plastique, rejoignit Jake, qui l'attendait à l'écart, en se retournant quand même en cours de route pour vérifier quelque chose. Il se pencha pour examiner le côté de cette incroyable machine mangeuse de billets, incroyable pour lui, du moins. Tout en bas, sur une série de petites plaques, il dénicha l'information qu'il cherchait. Il s'agissait d'un monnayeur 2000 fabriqué à Cleveland dans l'Ohio. Mais une quantité impressionnante d'entreprises y avait collaboré. General Electric, DeWalt Electronics, Panasonic et en tout dernier, en tout petit mais bien là, North Central Positronics.
Le serpent est dans le jardin, pensa Callahan. Ce Stephen King, qui est censé m'avoir imaginé, peut-être n'existe-t-il que dans un seul monde. Mais qu'est-ce que tu paries que North Central Positronics existe dans tous? Évidemment, parce que c'est la plateforme du roi cramoisi, tout comme son bras est aussi sa plateforme. Et il aspire exactement à la même chose que tous les despotes assoiffés de pouvoir de l'histoire. Il veut être partout, tout posséder et, pour résumer, être à la tête de tout l'univers. « Ou l'entraîner dans les ténèbres, » murmura-t-il.
« Père !»
l'interpella Jake sur un ton impatient.
« Père !»«
J'arrive !»
dit-il en s'empressant de rejoindre le jeune garçon, les mains pleines de jetons dorés et brillants. 14. La clé ressortit du casier 883 après que Jake eut inséré 9 jetons dorés. Mais il continua de les enfourner jusqu'à épuisement des 27 $. C'est alors que le petit hublot en verre situé sous le numéro de casier passa au rouge.
« Plein à craquer !»
commenta Jake avec satisfaction. Il parlait toujours à voix basse, du genre « ne pas réveiller le bébé ». Et cette longue salle caverneuse était en effet très silencieuse. Jake se doutait que ce devait être un boucan monstrueux à 8 heures du matin et à 5 heures du soir, les jours de semaine, avec tous ces gens qui allaient et venaient dans le métro sous eux, et dont certains entreposaient leurs affaires dans les consignes courtes durées à pièces. Pour l'heure, on n'entendait que les échos fantomatiques de conversations dans le conduit de l'escalator, montant des boutiques encore ouvertes dans la galerie marchande à l'étage du dessous. Un autre train à l'approche faisait trembler le sol. Callahan glissa le sac de bowling dans l'étroite ouverture. Il le repoussa aussi loin qu'il put à l'intérieur sous le regard anxieux de Jake. Puis il referma le casier et Jake fit tourner la clé. Puis d'une voix angoissée,
« Est-ce qu'elle va continuer à dormir ?»«
Je le crois, oui, » répondit Callahan, « comme elle l'a fait dans mon église. Si un autre rayon se rompt, elle pourrait se réveiller et faire des dégâts, mais de toute manière, si un autre rayon cède... »
Si un autre rayon cède, quelques dégâts ne feront pas une grosse différence,
termina Jake pour lui. Callahan acquiesça d'un hochement de tête.
La seule chose, c'est que, eh bien, tu sais où l'on va et tu sais ce qu'on pourrait bien y trouver.
Des vampires, des ignobles, d'autres serviteurs du roi cramoisi, peut-être.
Qui sait?
Walter serait peut-être là, lui aussi. L'homme en robe noire à capuche qui changeait parfois de forme et se faisait appeler Randall Flagg. Et le roi cramoisi en personne.
Oui, Jake le savait. Si tu as le don de Shining, poursuivit Callahan, on peut en déduire que certains d'entre eux l'ont aussi. Il n'est pas impossible qu'ils viennent lire l'emplacement de cet endroit et même le numéro de casier dans notre esprit. Nous allons débarquer là-bas et essayer de la libérer, mais il nous faut admettre que les chances de réussite sont plutôt minces. Je ne me suis jamais servi d'une arme dans ma vie, et toi, pardonne-moi, Jake, mais toi, tu n'es pas exactement ce qu'on pourrait appeler un vieux de la vieille.
J'ai quelques heures de vol.
Il pensait à son expérience avec Gasher et au loup aussi.
Mais là, ce sera sans doute différent, précisa Callahan. Ce que je veux dire, c'est que se faire prendre vivant ne sera sans doute pas une bonne idée. Si on en arrive là, tu comprends?
Ne vous inquiétez pas,
fit Jake d'une voix calme, à faire froid dans le dos.
Ne vous inquiétez pas pour ça, père. Ça n'arrivera pas.